retrouve dans 15 jours. Et là, tout de suite, je vous laisse avec le grand absent de Cheval Rex pour laisser la place à Hassan et à Bâton Rompu. Ciao, ciao.
Salut. 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec de tout état.
Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. C'est un bâton rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. On va couper ce générique qui fait 4 km de long parce qu'il y a du monde dans le studio. Bonsoir à vous, les amis du monde diplomatique d'Orléans, hein, comme tous les deuxièmes mardis tous les mois, pour parler du diplôme en cours, c'est celui de d'octobre. Nous allons, je vais te laisser la parole tout de suite, Henri, hein, pour que tu nous fasses un sommaire et tu nous diras exactement ce qu'ont choisi les amis pour parler ce soir. Vas-y.
Ok. Donc, la preuve que le diplôme est riche, n'est-ce pas, Hassan, c'est qu'il y a beaucoup de monde autour de la table.
Mais clairement.
Et donc, je vais faire une présentation plus rapide pour laisser la parole aux autres. Pour laisser la parole notamment à Alain, qui va nous parler d'un enjeu nucléaire entre Kiev et Moscou. Effectivement, c'est un article de Marc Handeveld que j'ai trouvé très intéressant à lire. C'est comme un mini-dossier, d'ailleurs, qui est consacré dans le diplôme là, du mois d'octobre à l'Ukraine. Il y a un autre article de Pierre Rimbert, l'Ukraine et ses faux amis, parce que donc on nous explique les événements qui ont, par exemple, conduit à l'opposition lors des événements de Maïdan. Pour donc les anti-occidentaux ont été renvoyés, et c'est évidemment un gouvernement pro-européen qui a pris le pouvoir. Ce qui explique que Moscou, d'une part, ait annexé la Crimée en son temps, et puis, eh bien, se soit très, très, très agacé de tous les rapprochements, sans parler, évidemment, de la guerre qui se passe entre l'Ukraine et Moscou. Et d'ailleurs, on parle de guerre même en Russie, nous dit Christophe Trentin, c'est-à-dire que le mot guerre n'est plus tabou. Oui. Ils sont toujours en opération spéciale, mais ils sont quand même en guerre maintenant. Eh ben oui, parce que d'ailleurs, il y a même beaucoup de réservistes qui ont été appelés. Mmh. Et dans cet article, Christophe Trentin insiste sur la rivalité entre deux instituts de sondage, VTS IOM et Yuri Levada, le premier étant plus pro-Kremlin et le deuxième est donc catalogué comme agent de l'étranger. Dans ces cas-là, eh bien, on apprend quand même que, alors il y a déjà quelques jours, mais il n'y a pas si longtemps, 75% des Russes approuvaient ce qui était encore l'opération militaire spéciale. Voilà, c'est ce mini dossier qui est consacré au Proche-Orient, pas au Proche-Orient du tout, notre proche Europe, on va dire, ouais, plutôt.
C'est quand même à l'Orient de l'Europe.
C'est l'Orient de l'Europe. C'est plus proche aussi pour nous. Des questions de... Là, on parlait de nucléaire. Et évidemment, avec les Russes, on parle souvent de gaz et de pétrole. Eh bien, il y a un article « Pétrole ou chômage ?» L'Écosse hésite. Pour une fois, donc, Henri ne restera pas en terre de Chine.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Mais je crois qu'il ne va pas s'empêcher de nous en parler.
On va essayer.
Il ne peut pas y arriver.
on va
nous parler du pétrole écossais. Qui est donc, là aussi, il y a un enjeu qui se passe au niveau de cet état de la Grande-Bretagne. Y a des articles aussi intéressants sur, nos préoccupations domestiques. Pierre nous parlera d'un article de Laetitia Delon, le handicap, première cause de discrimination. Et Victor nous parlera de Parcoursup. Je ne sais pas comment ça se passe à Orléans. Si ça fonctionne mieux qu'ailleurs. Donc, Parcoursup ou le nouveau nom de la sélection.
Oui.
C'est un article de Cédric Hugré et de Tristan Poulaouek. Sur le plan, on va dire, domestique, interne, il y a un article assez intéressant qu'on sait, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas. ou alors c'est qu'eux-mêmes, ils étaient manifestants. Il y a un article de Raphaël Kempf, qui est lui-même avocat, qui nous dit « Au bon vouloir des procureurs, il faut savoir que quand on est interpellé lors d'une manifestation, il prend l'exemple d'un manifestant de 23 ans, donc ça pourrait être un étudiant, Hector, qui est venu manifester contre le pass sanitaire à Paris et qui a été interpellé. Donc de suite, il a été placé en garde à vue. Et on lui fait un rappel à la loi. Et un rappel à la loi, c'est fait par un... C'est pas le procureur lui-même, d'ailleurs, c'est un délégué du procureur, souvent un ancien magistrat ou un ancien militaire, qui a peut-être pas la même formation juridique, mais bon, qui intervient. Et donc, vous pouvez avoir un rappel à la loi sans que vous soyez défendu. Il n'y a aucun débat contradictoire. Et mine de rien, quand même, ce sont des mentions qui restent dans votre fichier, et notamment dans le fichier des personnes recherchées. Alors, Dupond-Moretti a remplacé ce rappel à la loi depuis le 22 décembre 2021 par l'avertissement pénal probatoire, qui serait quand même un peu plus, va dire, respectueux des droits de la défense, si on peut appeler ça comme ça. Dans nos affaires internes, mais je fais très vite, il y a un article de Jean-Yves Mollier, édition Le Tournée des Concentrations. On en a souvent parlé ici au niveau des médias, des télés, des chaînes télé, mais au niveau de l'édition, vous en avez sans doute entendu parler, toutes les tractations qui se passent autour de Editis, ou de Hachette, de Bolloré et compagnie. Donc c'est très intéressant. Vous ne serez pas surpris que Bolloré veut s'étendre dans ce domaine-là pour imposer... plus ou moins, les valeurs traditionnelles de l'Occident chrétien. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur la scène de l'édition. Et c'est quand même très, très important en ce moment où donc, on est en pleine rentrée littéraire. C'est quand même intéressant de savoir que quelques-uns, évidemment, risquent d'être, de concentrer tout ce qui concerne le domaine de l'édition. Après, je n'ai pas le temps de vous parler de tous les autres articles. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Mais j'en profite pour laisser rapidement la main à mes camarades.
Et bon, on va faire ça après un peu de musique. On parlera avec Alain du nucléaire entre Kiev et Moscou. Tu nous as amené, Henri, un album d'un groupe, je sais juste, qui sont toulousains, Pulcinella.
Pulcinella, ouais. C'est très intéressant. C'est des musiciens assez inventifs et ils viennent bientôt au théâtre d'Orléans au mois de novembre. Alors, je ne peux plus te dire les dates.
Ah bah on va se rencarder.
C'est assez intéressant. Oui, moi, je les ai vus. Ils avaient avec eux une chanteuse italienne. L'année dernière, c'était un spectacle très intéressant.
Et puis, dernière question. Le titre que tu as choisi, c'est « Ta mère te regarde ». Il y a un souci.
Non, c'est pas « Ta mère te regarde ».
C'est pas ça du tout.
Je t'ai fait une croix pour pas que tu te trompes.
Qu'est-ce qu'on attend?
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on attend?
C'est parti, c'est à bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. J'espère que vous restez avec nous. c'est sympa en diable. Pulcinella, un groupe de Toulouse, mais qui fait des allers-retours. Hein. Je vous jure, je découvre ce groupe et donc je lis leur page. Ils font des allers-retours entre l'Albanie et la France. Et ils seront effectivement à Orléans, c'est le dimanche 20 mars prochain, avec une autre artiste de jazz qui s'appelle Maria Mazzotta. À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Nous y sommes pour parler, Alain, maintenant de ce nucléaire en Russie, centrale de Zaporijjia, qu'on ne connaissait pas du tout il y a quelques temps. Ouais. On n'arrête pas d'en parler. Des bombardements hein, sur Zaporijjia hier. Et c'est vrai qu'il faut s'inquiéter vraiment de cette situation nucléaire.
Il y a de quoi. Il y a de quoi. Et donc cet article de Mark Andevelde est très intéressant, je l'ai trouvé très intéressant, entre autres, hein, il y a d'autres articles que j'ai trouvé très intéressants, parce que ce mois-ci le diplo est très riche non seulement celui sur l'Écosse mais aussi un autre article que tu n'as pas cité qui parle de l'armée anglaise au Kenya.
Oui, c'est vrai.
Et de son action.
Oui.
Bon, parce que moi, j'ai un petit œil sur l'Afrique aussi, quelquefois.
Oui, bien sûr, on le sait.
Et bon, ben, on découvre aussi qu'ils ne sont pas nets de...
Ah non, mais la colonisation... Partir, hein. Ah non, mais lisez cet article pour voir, pour tous ceux qui me disent souvent que la colonisation anglaise a été mieux, alors mieux, il faut le dire vite, que la française, allez lire cet article. Sur les Anglais au Kenya. Vraiment, je l'ai lu attentivement.
Tu l'as lu,
oui, absolument.
Bon, en tout cas, l'article de Mark Andevelde, qui est intitulé « Entre Kiev et Moscou, l'enjeu du nucléaire », nous apporte un éclairage vraiment particulier par rapport à tout ce que l'on entend rapporté par les médias actuellement. Parce qu'au-delà du risque, et on va en parler bien sûr, autour de la centrale de Zaporijjia, derrière, il y a un réel enjeu, mais qui lui est géopolitique, un enjeu économique, entre l'Ukraine et la Russie, et on va comprendre pourquoi. Alors, l'Ukraine, la Russie, puis il ne faut pas oublier non plus les Américains. Alors, effectivement, cette centrale de Zaporijjia, bah, on en entend parler parce qu'il y a des bombardements, de nombreux bombardements qui tombent côté russe, côté ukrainien aussi, puisqu'il y a des attaques de drones faites par les Ukrainiens. Cette centrale, juste pour rappeler... elle a été prise par les Russes pratiquement dès le début de l'invasion parce qu'on va voir que c'était un objectif très important pour eux. Ils se sont réfugiés à l'intérieur de cette centrale qui est immense. Ils ont stocké des armes lourdes et ils s'en servent pour tirer sur les Ukrainiens en se disant on est protégés parce qu'ils ne vont pas répondre.
Bien sûr, voilà. Évidemment.
Alors, ils répondent quand même. Même l'armée ukrainienne n'a pas attendu l'ordre, l'autorisation du président pour le faire. Mais ils font attention. Malgré tout, il y a des bombes qui sont tombées sur notamment un bâtiment, on va voir. Lequel, pas n'importe quel bâtiment, un bâtiment qui abritait des barres d'uranium enrichi. Et puis elles sont tombées pas très loin des réacteurs. Oui. Les bombes russes aussi. Bon, ça, tout ça, ça sert à créer une ambiance de terreur. Et ils y réussissent. Parce que si des fois, par malheur, une bombe faisait exploser un réacteur, on a vu ce qui s'est passé avec Tchernobyl. Ça ne se limiterait pas au territoire ukrainien, bien sûr. Ça peut faire peur à tous les voisins, notamment la Pologne, la Roumanie, qui sont juste à côté, et pas que d'eux. Puis on a vu qu'un nuage nucléaire, ça ne s'arrête pas aux frontières. Ça survole. On a vu ça jusqu'au sud de l'Italie, avec Tchernobyl.
Absolument. Là,
en passant sur l'Alsace, l'Allemagne, et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand les affrontements, les batailles, les bombardements et même les crimes de guerre se passent à l'est ou au sud de l'Ukraine, ça nous effraie. Il y a plein de qualificatifs que l'on peut y donner. Mais pour nous, qui sommes à l'ouest, malgré tout, au coin de notre cerveau, on se sent un peu protégé en se disant... C'est assez loin, quoi.
Oui.
Ça bombarde, mais c'est pas chez nous.
Oui, c'est ça, c'est vrai.
Voilà. Tandis que Zaporijjia, on se dit, là, ça fait peur. Parce que si ça pète, on y a droit aussi. Mmh. Voilà. L'armée ukrainienne a réagi, comme j'ai dit, avec des attaques de drones. Donc, ils ne sont pas non plus complètement clean sur l'affaire autour de cette centrale. Si bien que l'AEIA, donc l'Agence internationale à l'énergie atomique, a délégué a envoyé une délégation
importante
de spécialistes après moult discussions.
C'est vrai.
Parce que les Ukrainiens ne voulaient pas au départ. Mmh. Et finalement, ils ont pu y accéder. Le rapport est terrible. Hein. Mmh. Il y a eu de nombreux dégâts constatés, notamment le toit, un toit effondré sur une zone de stockage de barres de combustible. Ils ont constaté aussi que des mauvais traitements vis-à-vis du personnel ukrainien de la centrale, qui sont les ingénieurs formés pour faire tourner cette centrale, dont certaines personnes ont disparu, d'autres ont eu des coups. On n'est pas loin, peut-être, de torture, pour les faire aller dans le bon sens. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé, cette délégation ? Ils ont demandé l'arrêt des bombardements, évidemment, la mise en place d'une zone de sécurité autour de cette centrale. À ce jour, il n'y a rien eu de fait dans ce sens. Bon. Alors, il faut dire, en plus, que l'Ukraine et la Russie, entre autres, ont signé des accords. L'accord, alors j'ai noté, numéro 2, l'accord de Genève, comme quoi les pays s'engageaient à ne pas tirer sur tout ce qui est des sites dangereux tels que des barrages hydroélectriques, des centrales nucléaires, bien sûr. Alors ils ont signé, mais bon, ils font quand même. Alors, ce qui est le deuxième aspect qui est le plus intéressant, en étant moins terrifiant, c'est que il y a un enjeu très important qui est la prise de contrôle de l'énergie, de la production de l'énergie électrique via les centrales nucléaires en Ukraine. Il faut savoir que ce sont les Russes qui ont doté le territoire ukrainien de toutes les centrales. Donc il y a notamment Zaporijja, il y a eu Tchernobyl qui est inactive maintenant puisqu'elle est sous une chape de béton, on sait pourquoi. Il y a une autre centrale appelée Centrale du Sud qui comporte 5 réacteurs. Ce sont les Russes qui ont installé, selon la technologie russe, tous les réacteurs nucléaires qui sont sur le territoire ukrainien.
Et je crois qu'il y en a 6, hein. Je crois. Il y a un truc comme ça, non ? Ils
sont des réacteurs ?
Ouais, ouais.
Ah non. Il y en a 14 au total.
14 au total ?
Ouais, il y en a 14 au total.
Je suis loin du, oui.
Ouais. Et donc, les Russes, en quelque sorte, considèrent qu'ils ont fait un cadeau à l'Ukraine en leur installant des centrales. Enfin, c'était un cadeau, sauf qu'ils préféraient les installer sur le territoire ukrainien que sur le territoire russe.
Ah, mais c'était à l'époque soviétique. Voilà. Donc, c'était des frères à l'époque.
Alors,
on voit bien ce que ça donne.
Évidemment, cette production d'électricité et toutes ces centrales étaient connectées au réseau russe.
C'est ça.
Bon. Malgré tout, ce sont quand même ces centrales-là qui alimentent en électricité tout le territoire ukrainien en même temps. Et donc, avec cette guerre, juste avant la guerre, et dans les prémices déjà depuis 2014, après l'invasion de la Crimée, les Ukrainiens se sont dit « Oula, attention, on va peut-être prendre des précautions, voire un petit peu prendre des précautions sur le plan énergétique ». Et commencer à voir si on ne pourrait pas, petit à petit, se dégager de cette technologie russe, ou au moins la réduire, en mixant sur certains réacteurs une technologie qui vient des Américains, notamment de l'entreprise qui s'appelle Westinghouse. Bon, ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc il y a eu des accords de signer. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Parce que migrer d'une technologie venant de la Russie sur une technologie américaine, ce n'était pas évident. Il y a eu des échecs. Il y a même eu une alerte sur un des réacteurs de la partie sud, de l'usine atomique sud. Et ça a retardé cette évolution. Mais finalement, ils y sont parvenus. Donc aujourd'hui, à Zaporijja, il y a 4 réacteurs qui sont selon la technologie américaine. Parallèlement à ça, les Ukrainiens ont dit on va commencer à déconnecter progressivement le réseau qui va vers la Russie pour essayer de le reconnecter vers l'Europe, en fait, via le réseau polonais, aidé par les Américains et aidé par la France, via RTE et EDF. Donc les techniciens français à l'énergie atomique sont venus en relation avec les techniciens polonais pour effectuer ces branchements. Le but était pour l'Ukraine de dire « Eh bien, je vais vendre de l'électricité à bas coût, à l'Ouest, en fait, à l'Europe. Ça me fera un rapport. » Et puis, progressivement, les Russes étant les gros méchants, on va les priver de cette électricité pour en faire bénéficier ce qu'on pourrait appeler, et ce qu'ils pensent être les alliés de l'Ouest, évidemment. Voilà. Donc, évidemment, ça n'a pas vraiment plu à M. Poutine, qui a dit, bon, il est temps que ça cesse. Alors, il a pris des prétextes pour envahir l'Ukraine, à dire, je vais aller au secours de ces pauvres Russes du Donbass pour aller les sauver, puisqu'ils demandent mon aide.
C'est ça.
Et puis aussi, on va renforcer un peu notre prise de territoire sur la Crimée. Et il a pensé, on ne va pas refaire l'histoire, qu'en 3 jours, il allait prendre Kiev et ainsi de suite. Bon. Seulement, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Alors, maintenant, où en sommes-nous ? Et je vais arrêter ma prestation, mais je vous engage à lire cet article qui tient sur une page. Oui. Mais on en apprend beaucoup, beaucoup sur les dessous.
Mais au-delà même de l'article, hein, lire le livre, moi, du coup, je l'ai noté, là, c'est le livre de Marc Anvelde hein, dont est tiré cet article, Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien. Voilà.
Ouais. Donc je finirai par dire que c'est marqué dans l'article que, sous la table, il y a des discussions entre Russes et Américains sur ce sujet.
Oui.
Pour savoir comment ils pourraient se partager cette production d'électricité via usine nucléaire.
Ah oui, non, mais clairement, il y a énormément de discussions entre Américains.
Donc ça, c'est en dessous de table.
Oui, bien sûr.
Et alors, il y a ce qu'on affiche, il y a ce qu'on voit à la télé, il y a ce qu'on lit sur les réseaux sociaux partout, et puis il y a ce qui se passe en second plan.
Bah, c'est pour ça que cette guerre n'a pas fini.
Donc lisez l'article, c'est très très intéressant.
Oui, absolument. Hein. Et donc je répète, hein, Marc Anvelde, Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien, c'est sorti chez Seuil. Merci à toi Alain pour cette précision. Et puis voilà, allez lire, hein, allez regarder le diplôme de ce mois-ci. Il y a aussi au Proche-Orient, il y a des cartes, il y a de belles cartes sur l'atome hein, qui est en train de gagner. On est en train de... Ils me font peur, mais je sais pas vous, mais moi ils me font peur. Mais on va y arriver. Hein. C'est la chanson de, je sais plus qui, la bombe humaine, là. Enfin la chanson. Bon bref.
Téléphone.
C'est téléphone.
Ah ouais. C'est l'arme de demain.
Très très fort.
Ouais.
Très, très fort.
Merci Alain. Juste derrière avec Pierre, on parle de handicap.
À bâton rompu, le magazine de l'actualité Alter International.
On essaie le plus possible Alter International pour être plus optimiste. Pierre, le handicap maintenant, c'est l'article qui ouvre hein, le diplôme de ce mois-ci.
Un long article, où
on apprend qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, dont certaines sont placées en maison spécialisée et d'autres non.
C'est exactement le débat. Alors la journaliste propose un article de fond et un débat de fond sur un sujet qui finalement est souvent vu en superficiel, en surface. Donc elle va faire un long article que je vous invite à lire. Je vais essayer d'être bref et puis vous le décrire en gros. Elle commence par donner le débat, en fait, ce qui se passe dans le handicap, c'est l'inclusion contre l'institution.
Oui.
Voilà, c'est le débat qui est résumé, on pourrait le dire comme ça. Il y a des raisons historiques. Elle commence par décrire, ou c'est dans un autre article, elle décrit aussi ce qui se passe dans le monde, en parlant de l'Europe du Nord, de l'Angleterre, des États-Unis, qui sont depuis les années 60-70 tournés déjà vers l'inclusion. alors que les, en Europe de l'Est, par exemple, pour vous dire sur la Russie, ils sont toujours dans... Enfin, toujours. Ils sont, ce sont des gens qui sont plutôt dans où les handicapés sont plutôt dans des institutions. Et puis la France, et le reste, et le Sud, on est, on va dire, moitié-moitié. Alors que ce soit au niveau du logement ou au niveau de l'école. Parce qu'il y a aussi, est-ce qu'on fait de l'inclusion à l'école? Est-ce qu'on fait de l'inclusion? Qu'est-ce qu'on fait une fois des handicapés, une fois qu'ils sont adultes? Le domaine est très hétéroclite et très vaste. Parce que, bien sûr, il y a les handicapés, c'est un aveugle, un sourd, et puis quelqu'un en chaise roulante, et puis un trisomique. Enfin, il y a énormément de cas. Il y a énormément d'institutions. Toutes ne se ressemblent pas. Toutes n'ont pas le même but, etc., etc. Donc c'est assez compliqué. Elle parle aussi d'un grand nombre d'associations qui vont naître et qui vont gérer tout l'argent, les grosses sommes d'argent qui sont proposées. En fait, si on reprend l'histoire, on comprend aussi pourquoi on se retrouve avec institutions contre inclusion. C'est qu'au 18e, début du 19e, 20e siècle, on a évidemment les institutions, notamment religieuses et médicales, qui vont prendre en charge, un peu logiquement, on a envie de dire, le handicap. Et du coup, d'une façon un peu logique également, ces gens-là, les handicapés, vont se retrouver dans des institutions qui vont de plus en plus se fermer. À la suite de scandales, alors elle évoque des scandales qui sont passés aux États-Unis dans les années 50, 60, 70, dans les années 70 plutôt. Il va y avoir ce mouvement inverse. En Suède, ils avaient commencé déjà avant. La Suède, ils sont toujours à la pointe de beaucoup de choses au niveau sociétal.
Il paraît.
Voilà, ils vont se retrouver à parler d'inclusion plutôt que d'institution. En France, l'institution est quand même assez présente et c'est rénové, on va dire. Donc le débat aujourd'hui entre les gens qui sont pour l'inclusion et l'institution est un peu douloureux, et très douloureux pour les gens qui défendent l'institution, parce qu'ils disent bah, nous on s'est rénové, on a fait des choses nouvelles. Ils parlent plus d'institution, ils parlent de maison, ils ont réduit des choses, ils ont amélioré des choses. Il y a des familles qui disent mais nous sans institution on peut pas, tout simplement un handicapé à la maison c'est impossible, c'est trop compliqué. Il y a des handicapés qui ont besoin de soins 24 heures sur 24. Donc on a quand même besoin d'une institution. Et face à ça, il y a des gens qui disent que l'inclusion, c'est tellement important qu'il faut que ce soit le fer de lance de la politique du handicap, ce qui n'est pas encore le cas en France. Alors je ne sais pas si ça va venir, mais l'ONU est venue porter secours, enfin donner son aide aux gens qui étaient pour l'inclusion, parce qu'elle a même condamné la France, je sais plus, en 2019. Alors pas que la France, le Canada, la Norvège, les trois pays sont cités, parce que on est trop dans, il y a trop d'institutions. Alors il y a des mots comme ségrégation, etc. Vous lirez ça, c'est un peu fort.
Ah bon, tu trouves?
Oui, je trouve que c'est un peu fort. Cela dit,
mais c'est 17% de la population quand même, Pierre. Hein. Et on s'en occupe pas. Enfin, on dit c'est bon, ils n'ont qu'à se débrouiller.
Mais ça c'est une vision. Ça c'est une vision du début du 20e. Je crois que c'est plus une vision de maintenant.
Merci de me ramener à mon âge.
Si on peut réduire le débat à inclusion contre institution, on peut également, d'une façon très facile, réduire le manque d'aide à des paroles contre des moyens. Voilà. En France, il y a même les philosophes qui s'y mettent. Elle cite d'ailleurs certains philosophes, certains penseurs, et qui disent des choses très intéressantes. Et manque de peau, ça manque de moyens tout le temps, encore et toujours. Elle termine, j'aurais bien voulu terminer sur les philosophes pour avoir quelque chose de positif, mais elle termine sur non seulement le manque de moyens, mais en plus, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, le manque de personnel. Oui. C'est-à-dire que personne ne veut aller travailler personne. Il manque de personnel et dans les institutions et dans les aides à domicile. Oui. Donc voilà, allez lire cet article, il est long et très intéressant.
C'est vrai, et touffu, vraiment.
Et vraiment touffu.
Laetitia Delon, c'est la journaliste, ouais. elle est spécialiste dans le travail social notamment, elle a écrit aussi sur les problèmes psychiques, avec une immersion dans un village de personnes à problèmes psychiques, et elle avait fait un livre, elle avait tiré un livre de ça. Merci à toi Pierre pour le rendu de cet article, qui, encore une fois, je le répète, ouvre le diplôme de ce mois-ci. À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu, l'état du monde.
L'état du monde, pas très loin, Parcoursup, c'est là, au ministère, là-bas, je sais rue de Valois d'ailleurs. Victor a lu cet article sur Parcoursup et va nous en parler. Là.
Ou le nouveau nom de la sélection, c'est un article de Cédric Hugré et Christian Poulaoulec, qui je pense doit être breton.
Non, pas du tout.
Oh, les clichés.
Franchement, d'où tu tiens ça?
En fait, j'ai voulu prendre cet article parce que c'était, pour une fois, ça me fait un peu bizarre dans le monde diplomatique qu'il y ait un article franco-français, enfin vraiment, qui soit pas sur des grandes questions de politique intérieure ou des choses comme ça, mais qui soit sur...
Mais tu le sais, en étant Radio Campus, c'est un vrai sujet, quoi.
Ah oui, bien sûr. Mais du coup, je me suis dit qu'en plus, voilà, Radio Campus étant une radio estudiantine en partie, ça pourrait certainement intéresser pas mal de gens. Alors cet article, en fait, il part d'un constat d'échec. Il explique qu'entre 85 et 95, la part de bacheliers par génération est passée de 30% à 60%, et qu'avec une augmentation de la natalité, en fait, on a une augmentation constante des effectifs d'étudiants qui se présentaient, qui étaient bacheliers, et qui du coup se présentaient après dans les études supérieures. Le problème, c'est que depuis les trois derniers quinquennats, on a eu une baisse de 12% des dépenses par étudiant. Et du coup, on arrive à un constat qui est assez déplorable, qui est que, à part pour les CPGE et les STS, où le budget de l'État est d'environ 10 000 euros par étudiant par an...
Tu peux nous expliquer les acronymes, parce que...
Les CPGE, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles.
C'est ça.
Et les STS, c'est le truc pour préparer les BTS. Je ne me rappelle plus exactement ce que ça veut dire, mais...
Mais c'est ça, c'est pour aller dans les BTS. Je dis ça parce qu'il y a ma tata qui écoute et qui ne connaît pas. Donc,
voilà. Mais par contre, effectivement, donc, par rapport à ces 10 000 euros par an et par étudiant, et ben, en fait, un licencié à l'université, ça coûte 4 000 euros, un licencié. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait ses 3 années d'études. Les 3 années d'études à la fac, ça coûte que 4 000 euros à l'État.
Je l'ai appris dans l'article, vraiment, je ne le savais pas.
Ouais, c'est assez dingue, en fait. Enfin, en termes de... On voit les différences d'investissement, du coup, en fonction des types de formation.
Vas-y, près du micro, Alain.
Parce que là, je connais, parce que j'ai un petit cousin qui est enseignant. Oui. Dans un lycée agricole, et simplement pour dire, pour former un ouvrier qui manie les engins de chantier, compte tenu du coût du matériel, bien sûr, ça coûte à l'État 14 000 euros par an.
Et par étudiant. Ok.
Mais ça, c'est juste pour faire la part des choses. Il n'y a pas que les grandes écoles. Là, on est loin des grandes écoles. C'est du manuel, en fait. Oui. Et ça coûte largement autant.
D'accord.
Mais bon, c'est un secteur bien particulier.
Ouais. Oui, c'est...
Mais tu as raison de le rappeler.
Intéressant à savoir.
Il ne faut pas laisser dire qu'il n'y a que sur le haut de gamme qu'on investit.
Bien sûr.
C'est uniquement pour ça.
Non, parce que la gratuité des études supérieures en France, c'est quand même...
Ça coûte de l'argent à l'État.
Ça coûte de l'argent à l'État, mais c'est typiquement français.
Oui, bien sûr. C'est vrai. Alors, pareil, donc, dans le constat d'échec, en 2022, la plupart des universités votent un budget déficitaire en raison du coup des lois successives sur la responsabilité des universités, les LRU, etc., qui ont diminué les budgets. Et voilà. Alors, après, l'article va nous expliquer admission post-bac et Parcoursup. Alors, pour les personnes ici qui sont un petit peu plus âgées que moi, vous, quand vous vouliez faire des études supérieures, vous aviez votre baccalauréat en poche, vous alliez dans une université, et ce baccalauréat vous donnait automatiquement droit à une inscription en première année à l'université. Voilà, c'était un système très égalitaire. Donc, du coup, le problème, c'est que il y avait beaucoup d'universités qui, du coup, étant considérées comme étant meilleures, étaient assaillies par les provinciaux, hein, n'est-ce pas, les universités parisiennes, qui, du coup, avaient des problèmes d'effectifs, etc. Mais bon, au moins, c'était une garantie d'égalité, etc.
Absolument.
Depuis 2009, on a un système informatisé qui, en fait, gère tout ça. Donc, le premier, ça a été admission post-bac. Mmh. Et depuis 2018, on a un système informatisé qui est celui de Parcoursup, qu'ont dû subir beaucoup, beaucoup d'étudiants, de personnes qui nous écoutent, j'imagine. Et du coup, l'article fait un peu la différence entre les deux en expliquant que admission post-bac, enfin, en étant plutôt élogieux, du coup, sur admission post-bac, moi, ce que moi, auquel moi, j'ai bénéficié, hein, parce que du coup, j'ai eu mon baccalauréat en 2018, en 2000, pardon, en 2009. Parce que, en fait, sur admission post-bac, il n'y avait pas de sélection. Directement des étudiants, c'était juste en fait une plateforme pour permettre aux étudiants de s'inscrire à différents trucs. Alors évidemment, il y avait des sélections dans les filières qui étaient sélectionnantes, c'est-à-dire les classes préparatoires, les trucs comme ça, etc. Mais pour les universités, il n'y avait pas de sélection. Bon, l'article note quand même que la dernière année, en 2017, il y avait quand même une centaine de licences qui faisaient de la sélection, mais de façon parfaitement illégale.
Oui, c'est clair.
Par ce biais-là. Oui. Mais ce chiffre est passé à 773 depuis qu'on est sur Parcoursup.
J'ai lu ça, oui.
Voilà, tri informatique et tri des dossiers. Voilà, ça joue sur le tri des étudiants. Enfin, voilà, il y a une véritable sélection qui ne dit pas son nom, qui en fait est effectuée par les universités en amont. Sur admission post-bac, le candidat était libre de choisir. Sur Parcoursup, bah, au final, le tri des candidats fait que c'est les formations qui ont le dernier mot sur... l'orientation future. En plus, Parcoursup, ça crée un stress toute l'année parce que les vœux se font dès la période de janvier.
C'est ça.
Et au final, il y a beaucoup d'étudiants qui expliquent qu'il faut mieux réussir son Parcoursup que réussir son bac, en fait.
C'est à peu près ça. Je l'ai entendu, en plus.
Ouais, ouais, ouais. Au final, le bac n'est qu'une formalité, mais il faut être reçu dans l'université dans la bonne formation qu'on veut. Et il y avait aussi des différences de fonctionnement, puisque admission post-bac avait seulement un cinquième de ses effectifs qui n'avaient aucune formation, aucune affectation au mois de juin, alors qu'on est à la moitié pour Parcoursup en juin. Les étudiants en juin qui passent leur bac, il y en a la moitié qui ne savent pas où ils vont aller. C'est quand même...
c'est tout à fait vrai.
C'est quand même assez désespérant. Alors, l'article tient à souligner quand même que l'objectif de Parcoursup était aussi de lutter contre l'échec en première année scolaire, en première année universitaire, en mettant en place des cours supplémentaires, des licences allongées sur 4 ans, etc. Bon, il faut savoir qu'en 2018, il y en a 4% qui en ont bénéficié, d'étudiants. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et que sur cela, ils sont deux fois moins nombreux à passer en deuxième année que les étudiants lambda. Voilà, donc... au final, on constate une diminution du nombre de bacheliers ayant des résultats moyens ou de bacheliers issus de bacs technologiques dans certaines filières, notamment AES, STAPS et gestion, et qui se découragent ou qui ne sont simplement pas sélectionnés. Voilà, et donc c'est un moyen insidieux de sélectionner à l'entrée qui va à l'encontre des luttes sociales des années 60 pour une université ouverte à tous et toutes et libre et égalitaire.
C'est bien que tu termines comme ça. C'est un vrai problème social. C'est un vrai problème social et nous l'entendons, nous, ici, à Radio Campus. Des jeunes qui arrêtent les études. Il y a ceux qui arrêtent parce qu'avec le Covid, ils n'ont plus envie, voilà, plus la volonté. Mais énormément de gens qu'on connaît par Parcoursup les a bloqués quelque part. Et dans la tête, pour les remettre vers l'université ou les lycées, c'est impossible. Impossible.
Alors...
Vas-y, au micro
non, Alain. Simplement, je m'interroge parce que l'article est évidemment très intéressant, mais comme souvent, les articles critiquent, constatent, mais il n'y a jamais de solution à apporter.
Il n'y
a jamais de proposition, jamais de solution à apporter.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que c'est ça qui sera intéressant de savoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si Parcoursup n'est pas top, ne correspond pas à ce que l'on en attend? Il faudrait trouver autre chose.
Mais ah ben c'est pas mon métier, ça, c'est le métier des élus là, des ministres, si tu veux. Non, mais je comprends tout à fait Alain ce que tu veux dire. Effectivement.
Après il y a d'autres questions à se poser par rapport aux étudiants en général. Ouais. Et je me tourne vers nos étudiants.
Oui, on a quelques étudiants dans le studio qui sont là.
Il y a des questions à se poser.
Au micro.
Parce que si on compare aux années d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans où tu disais avec le bac. On avait systématiquement une place en fac. Ben oui, mais combien il y avait d'étudiants à cette époque-là?
Oui, mais le problème...
Il y en avait beaucoup moins que maintenant. Bien maintenant, ça, avec les 70% de bacheliers, ils arrivent en masse Et derrière...
90%.
Hein, oui. Et derrière, il n'y a pas tout le travail, il n'y a pas tout le travail à proposer
on
aux
pas,
jeunes.
On n'a pas les moyens en France de...
Qui pourraient correspondre à ces niveaux d'instruction.
Ouais. Non mais attends, on n'a pas les moyens en France, Alain, de construire d'autres universités de...
Mais non, mais...
On n'a pas.
Mais attends, attends. Alors là,
je vous pose une question.
On déplace le problème.
Oui.
Il y a 20...
Pas trop long, pas trop long, parce qu'on a, on a d'autres...
D'accord,
a deux
articles, bah, je le dis, puis je m'en vais, puis vous démerdez zizich.
Voilà,
vas-y, vas-y. Je peux résumer en deux mots.
Ouais. Ouais. Non, ouais, je résume en deux mots.
Vas-y.
Voilà. À une époque, on a dit, ah, il faudrait 70% de bacheliers, c'est l'objectif.
Oui, c'est vrai.
OK. Maintenant, on va dire, il faudrait 70% de licenciés ou de... Même plus, ouais. Même plus, parce que les licences, maintenant, c'est plus suffisant. Mais... On ne répond pas à la vraie problématique. Et qu'est-ce qu'on en fait, tous ces étudiants qui ont des niveaux Bac plus 5, Bac plus 6
bah, ils n'ont pas de travail pour l'instant. Mais
bah, c'est le problème.
Bah oui, je
c'est
sais
un
bien,
gros
je,
problème.
Je sais bien. Pierre.
Même combat que les handicapés. Beaucoup de discours et peu de moyens.
Et peu de moyens, c'est ça.
Mais non, mais les moyens...
Grandisant, peu faisant, on dit.
Voilà, c'est ça.
De toute façon, il y a une grande misère des diplômés. Pourquoi y a-t-il tant de diplômés français, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, enfin bon, ou ailleurs j'ai un de mes neveux, bon, qui est docteur en sciences, chimiste, qui a une expérience professionnelle dans des labos, etc., qui a fait un post-doc dans une université japonaise et qui n'a pas de boulot.
Ouais,
bah oui. Bon, donc ils foutent le camp.
Bah c'est clair. Non, mais je sais bien, ils partent ailleurs. Mais en tout cas, cet article intéressant à lire vraiment pour beaucoup d'étudiants qu'on a rencontrés ici qui ont eu des problèmes avec Parcoursup. Et pour terminer cette émission, on va faire un grand écart entre l'Écosse et la Chine. C'est Henri qui va s'y coller.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Henri, on commence par l'Écosse, alors.
On commence par l'Écosse, oui. D'accord.
Je ne sais pas, comme tu veux, en fait.
Attends, Hassan.
Oui. Oui.
Oui, juste avant de repartir sur le sujet de Parcoursup. Moi, j'ai notamment vécu la sélection Parcoursup, et on peut véritablement parler de sélection dans le sens où, en fait, c'est assez flou au niveau des critères. Il y a la question du secteur. Mmh. Et au niveau de la question des personnes en situation de handicap sur Parcoursup et dans l'enseignement supérieur, si on regarde bien, il y a peu de personnes qui sont en situation de handicap qui parviennent jusqu'à l'enseignement supérieur parce qu'il y a déjà toute une sélection qui se fait en amont, c'est-à-dire pendant le collège et pendant le lycée. Et il y a aussi des questions un peu plus profondes, je pense, à poser, dans le sens où, en fait, dès le collège, et même, je me souviens, moi, dans mon lycée, par exemple, en fait, dès votre année de première, on avait une batterie d'examens les deux premières semaines. Et si jamais on voyait que pendant ces deux premières semaines, vous n'aviez pas des résultats qui tenaient la route, entre guillemets, on vous orientait vers des licences professionnelles. Et il y a en fait ce souci, c'est les étudiants en difficulté, on les oriente vers des filières professionnelles qui ne sont pas faites pour ça.
Ouais, et depuis quelques années, ouais, malheureusement, c'est...
Et on dévalorise ces filières.
Oui, mais en tout cas, oui, ça reste, c'est un vrai.
De toute façon, il y a des carences aussi dans la prise en charge, dans le secondaire, je crois. Enfin bon, moi, je connais mieux le supérieur et les CPGE, mais dans le secondaire, je connais quelqu'un qui était prof dans un lycée, qui a dû alerter quand même les pouvoirs publics pour obtenir l'aide à laquelle la loi donne droit.
Oui, c'est ça.
Dans certains cas,
la
loi est relativement bien faite. Simplement, elle est inapplicable dans une foule de cas précis.
Mais quand vous êtes en situation de handicap, par exemple...
Pas de discussion. Il est moins 10. On a deux articles à finir. Mais on en parlera dans une autre émission, Rodrigue, si tu veux. Hein, si tu veux venir nous parler de ton expérience. Hein, OK.
OK.
Ça marche. Merci. Ça marche. On est parti sur l'Écosse ou sur
la
Chine ?
On est parti sur l'Écosse. Allez, allons en Écosse. De toute façon, l'article sur l'Écosse... Donc le titre, c'est « Pétrole au chômage, l'Écosse hésite ». Alors, je rappelle simplement que, je serai plus bref sur l'Écosse peut-être que sur la Chine, ça ne surprendra personne. Je rappelle simplement que l'Écosse est bon, c'est un petit pays donc ça, qui fait partie du Royaume-Uni, avec l'Angleterre, la principauté de Galles et l'Irlande du Nord. Et bon, le gros morceau sur le plan économique, c'est l'Angleterre. Bon, et sur le plan de la population, l'Écosse, c'est à peine 6 millions d'habitants. C'est rien. Mais l'Écosse a du pétrole et du gaz en mer du Nord.
Et là, tout le monde dit « messieurs ». Avec respect, ben oui.
Donc l'Écosse... alors, l'Écosse voudrait évidemment, surtout depuis le Brexit, que l'Écosse ne désirait pas. L'Écosse voulait rester dans le giron européen. Et du coup, quand on a découvert qu'il y avait des provisions de gaz et de pétrole en mer du Nord, en territoire écossais et non pas anglais, les Anglais, bien sûr, désiraient que ça reste dans le Royaume-Uni, évidemment, et l'Écosse désirait que ça soit écossais. Et donc, c'était le gros argument des indépendantistes. C'est vrai. Bon, il se trouve que le prix du pétrole en 2014 a chuté. Il se trouve que les compagnies pétrolières ont licencié. Il se trouve que la reprise économique et la guerre en Ukraine ont fait remonter le prix du gaz et du pétrole. Donc ça change encore la donne. Du coup, le Royaume-Uni veut augmenter la production en mer du Nord. Donc l'Écosse est concernée. Et l'Écosse sait, enfin les Écossais savent tous que oui, il y a encore du pétrole et du gaz, mais on est en train de vivre les dernières années florissantes à ce sujet. Or, par ailleurs, l'Écosse a un parti écolo très puissant.
Oui, c'est vrai.
La première ministre écossaise a des sympathies écologistes très, très appuyées. Et l'Écosse bénéficie d'une situation qui est quand même très intéressante sur le plan de l'éolien. Aller au Shetland, j'ai assisté une fois à une tempête dans la baie de Saint-Magnus, c'était pas de la tarte. Ouais. Et ils ont de quoi faire tourner les moulins. Hein.
C'est vrai, ça souffle à bord.
Il y a du vent.
D'accord.
Et il y a des gens qui pensent aussi à des usines marémotrices, pourquoi pas. Et naturellement, les Écossais, alors, pensent à tout cela, aimeraient bien également, pour préserver leur indépendance énergétique, créer à l'échelle écossaise quelque chose qui ressemblerait à l'EDF, par exemple.
D'accord.
C'est-à-dire une agence d'État qui gérerait tout ça. Et pour les Écossais, nul doute que ça simplifierait beaucoup les choses. Alors, surtout ça se greffe des problèmes sociaux. Le chômage, naturellement, parce que l'éolien, c'est très bien, mais ça emploie beaucoup moins de monde que les hydrocarbures. Et les salaires, évidemment, sont bien meilleurs sur les plateformes que dans l'éolien. Donc tout ça fait une espèce de mélange de problèmes, problèmes énergétiques, problèmes écologiques, problèmes sociaux, problèmes économiques, plus naturellement, le désir des Écossais, contredit bien sûr par le gouvernement actuel du Royaume-Uni, le désir des Écossais d'un référendum sur l'indépendance.
Mais ils sont vraiment décidés à y aller. Le parti, le SNP, hein, je les aimais bien, mais là, en plus, avec cet article, j'aime beaucoup. Et ils veulent l'indépendance. Ils peuvent vivre sans l'aide de la Grande-Bretagne, je crois, bien sûr. Hein.
Et ça serait un État tout à fait décent dans l'Union européenne.
Absolument, absolument. Alors, on va passer en Chine. Maintenant,
on va passer en Chine, oui.
Avec un congrès du Parti communiste, c'est le 16 octobre. C'est donc en fin de semaine ou début de semaine prochaine.
Donc, c'est le 16 octobre, oui, c'est tout bientôt. Ouais. Oui, on est le 11 aujourd'hui.
On est le 11, donc... absolument. Et si Xi Jinping sera désigné chef du parti, chef du pays, évidemment, pour la troisième fois.
Oui, il y a peu de suspense dans ces cas-là.
Hein, bon.
Donc, on sait qu'il va rester le patron. Hein. Cela dit, derrière ces apparences bien huilées, bien feutrées, il se passe des tas de choses. Il se passe toujours des tas de choses dans les coulisses en Chine. Même avant l'époque impériale, c'était déjà comme ça. Enfin bon, c'est une vieille tradition. Et en réalité, il y a des tas de problèmes qui se posent sur le plan interne, aussi bien que sur le plan externe. Sur le plan interne, la croissance n'est plus à deux chiffres depuis longtemps et elle ralentit. Il y a eu le Covid, il y a eu quand même la doctrine zéro Covid qui a été durement ressentie par les Chinois parce que ça a bloqué une foule de choses, et pas seulement les libertés personnelles, mais une foule de choses sur le plan économique, etc. Il y a les problèmes de pollution. J'ai des souvenirs de zones industrielles en Chine. C'est absolument dantesque. Il y a évidemment les relations sur plan externe, donc les relations dégradées avec les États-Unis. Mais ça fait longtemps qu'elles sont dégradées. Il y a le problème de la guerre entre Russie et Ukraine. Et puis, évidemment, il y a le problème de Taïwan. Donc, il en a été question à la dernière émission, donc je ne vais pas y insister. Mais ça fait beaucoup de choses. Ça, il faut savoir aussi que l'industrie chinoise est extrêmement dépendante des technologies étrangères. Oui. Bon, naturellement, les Chinois font une foule de choses. Ils ont progressé à une vitesse. Enfin, quand on a connu la Chine des années 80 et qu'on voit la Chine de maintenant, on se dit que c'est vraiment une autre planète. Ils ont progressé à un rythme fou.
Peut-être trop vite.
Peut-être un peu vite. Cela dit, il y a des fournitures dans la mécanique de précision, par exemple, qui ne peuvent être fournies que par l'Allemagne, par exemple. Il y a des fournitures pour le numérique. Qui ne peuvent être fournis que par Taïwan. Tiens. Et oui, Taïwan a la haute main sur les semi-conducteurs, par exemple. C'est quand même le premier producteur dans ce domaine sur la planète. Donc, il est évident, on sait que la Chine finira par mettre le grappin sur Taïwan. Enfin, ça fait partie des choses pratiquement inévitables. Mais Taïwan résiste, en tout cas. Mais la Chine verrait bien donc que cette source de semi-conducteurs lui appartenir. Alors, il y a un bilan relativement positif quand même de cette dernière décennie en Chine. L'économie et le commerce se sont ouverts considérablement. Donc c'est quelque chose. Et les investissements en Chine, les investissements étrangers, ont grimpé, le nombre des investissements a grimpé d'une façon extraordinaire. Donc la Chine fait de très bonnes conditions pour les entreprises étrangères qui désirent s'y installer. Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs parmi nos auditeurs, mais sait-on jamais, ou de futurs entrepreneurs peut-être.
Ah si, nous avons quelques étudiants qui ont vécu en Chine ou qui vont y aller, qui nous écoutent de temps en temps.
Oui, ces étudiants-là, s'ils veulent y retourner, ils peuvent profiter effectivement de l'excellent accueil qu'on fait aux entreprises étrangères sur le sol chinois.
C'est quoi? Donc, c'est la deuxième économie mondiale maintenant ou la première?
Je pense que c'est toujours la deuxième.
La deuxième, d'accord.
Mais je pense que les entreprises étrangères sont alléchées quand même par la perspective d'un marché d'un milliard de consommateurs.
Bien entendu,
quand même.
Évidemment.
Enfin, c'est irremplaçable ce genre de choses. Enfin, alors, la Chine a commis quelques erreurs aussi. Par exemple, des investissements peu utiles. Donc, la Chine a investi dans les TGV, technologie française d'ailleurs à l'origine, pas seulement, mais à l'origine en tout cas. Et ils sont allés construire des lignes de chemin de fer dans des zones complètement désertiques où il n'y a pas un chat, enfin si, quelques-uns peut-être, pour prendre le train. Donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment peine perdue, disons. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Montée du chômage. 20% des jeunes qualifiés sont au chômage. Et puis, il y a aussi, dans les problèmes intérieurs, par exemple, les migrants intérieurs.